Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clara Gabillet. Rebonjour Clara.
Rebonjour Rémi, bonjour à tous. Une journée stratégique pour les pompiers du Var. Le feu qui ravage le département depuis 2 semaines n'est toujours pas fixé. Nous serons en direct sur place dès le début de ce journal. Le soulagement et la désolation en Gironde où le retour des évacués rime parfois avec constat des dégâts. Reportage au Porges avec des habitants qui ont tout perdu. Et puis l'Olympique Lyonnais joue gros ce soir. Match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Sparta Prague, c'est à 20h.
Clara, dans le Var, les pompiers luttent toujours contre un incendie problématique. Ce sont les mots employés par le préfet.
Ouais, il s'est déclaré il y a 2 semaines autour du massif du Gros Bessillon, alimenté vendredi par un autre incendie dans le secteur. Et si la situation est stable, rien ne peut être considéré comme acquis. A prévenu hier le préfet, la météo pourrait compliquer la tâche des pompiers. Rachel Sadodine, vous êtes l'envoyée spéciale d'RMC dans le Var en direct de Carcès ce matin au poste de commandement des pompiers qui se prépare à une journée stratégique.
Oui, car pour la première fois en 2 semaines, aucune consigne d'évacuation ou de confinement n'est en vigueur ce matin. C'est le signe d'une certaine stabilisation qui doit permettre aux pompiers de se concentrer sur le traitement des lisières et des points chauds. Le département du Var est toujours en vigilance orange canicule aujourd'hui, mais le vent devrait souffler moins fort, pas plus de 20 km/h. C'est ce que vient de me confier un pompier, ajoutant « la météo peut nous être favorable aujourd'hui ». Mais ce répit sera de courte durée et tout le monde en a bien conscience ici. La levée du Mistral est attendu pour demain ou après-demain et pourrait réactiver des foyers. Le préfet du Var l'a rappelé hier soir, on parle d'un feu toupie, pas question donc de relâcher la vigilance. C'est justement la consigne qu'ont reçue les sapeurs-pompiers ce matin ici au poste de commandement de Carcès où ils reprennent des forces avant de retourner patrouiller. Ils doivent éteindre les fumerolles, noyer les souches d'arbres encore fumantes et au petit déjeuner ici autour d'un café, certains évoquent les mots du préfet hier. La reprise de feu de dimanche soir, il évoque des premiers indices qui ne laissent aucun doute sur une origine intentionnelle. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour déterminer la cause des incendies. Un jeune homme de 23 ans a été placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir provoqué une dizaine de départs de feu fin juillet.
Rachel Sadodine en direct de Carcès dans le Var pour RMC. En Gironde, des milliers d'habitants se réveillent chez eux pour la première fois depuis plus de 10 jours. Ceux qui vivent au Lèche, Cap Ferret et au Porges, autorisés hier à regagner leur domicile alors que le feu est fixé depuis plusieurs jours. Mais pour d'autres, le retour a fait l'effet d'une claque. Au Porges, 183 maisons ont été détruites par les flammes. Notre envoyé spécial Luc Allaubert a suivi une famille sur les ruines de sa maison.
Marius le craignait, avec sa femme et ses 2 enfants, ils avaient vu des images de leur maison en proie aux flammes, alors à son retour.
On pensait qu'on pourrait récupérer encore des choses, et malheureusement il n'y a plus rien.
L'air hagard, il déambule dans ce qu'il reste de l'habitation.
Là c'était un séjour, là on avait une chambre.
Et ce ne sont plus que des gravats, le toit a disparu, quelques murs tiennent difficilement debout, les restes d'objets calcinés jonchent le sol.
Le lit, la télé, il n'y a plus rien à récupérer, la maison elle est complètement détruite.
Tenir bon, surtout pour ses enfants et leurs nombreuses questions pour lesquelles Marius n'a toujours pas de réponse.
Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va habiter? Où est-ce qu'on va à l'école? Il va falloir trouver des solutions.
Tout était pourtant parfait à leur emménagement il y a 3 ans.
C'était un petit paradis avant, tout vert, avec la forêt à côté, c'était magnifique. C'est pour ça qu'on est tombé amoureux de cette parcelle.
Et c'est pour ça aussi que pour rien au monde, il ne partirait s'installer ailleurs.
On va tout nettoyer, on va reconstruire. On va pas abandonner, on est jeune, on a encore du courage, on a de la force, on va pas abandonner. On va y arriver.
Mais la réalité le rattrape vite. La voix serrée par l'inquiétude, il lâche à demi-mot. Je ne sais toujours pas où dormir les prochains jours.
Reportage de Luc Allaubert, l'un des envoyés spéciaux d'RMC en Gironde, où les pompiers restent mobilisés pour essayer d'éteindre entièrement le feu. Ils sont aidés depuis hier par environ 70 collègues venus d'Ukraine. Un autre incendie que les pompiers surveillent ce matin dans la Drôme, il s'est déclaré hier en fin de journée près de Bellegarde en Digoix. 7 canadaires mobilisés contre les flammes qui ont ravagé près de 80 hectares. 50 personnes ont dû être évacuées d'un hameau. Sur le plan judiciaire, nouveau bilan du ministère de l'Intérieur. Ce sont 375 personnes qui ont été interpellées depuis le début de l'été pour des suspicions de départ de feu. Parmi elles, 142 mineurs.
Clara, l'état de santé de deux jeunes randonneurs, toujours très incertains.
Un jeune homme de 21 ans, un adolescent de 14 ans, gravement blessé après avoir été frappé par la foudre hier, Victor Girard, sur le sentier du GR10 dans les Hautes-Pyrénées.
il est à peine 16 heures quand un violent orage éclate sur le massif pyrénéen, alors qu'une quinzaine de randonneurs se trouvent sur un sentier à 2700 mètres d'altitude. Soudain, la foudre s'abat sur l'adolescent et le jeune homme de 21 ans. Un hélicoptère du peloton de gendarmerie de haute montagne intervient très vite sur place pour prendre en charge les deux victimes. Toutes les deux sont transférées à l'hôpital. L'une d'entre elles est notamment touchée à la tête. Raymond Piccoli, directeur du laboratoire de recherche sur la foudre, regrette l'imprudence de ces randonneurs alors que des orages étaient attendus sur le secteur.
L'orage, c'est un danger mortel. Si vous n'adoptez pas très rapidement les précautions, vérifier la météo et de ne pas sortir dans des activités extérieures, on part du principe qu'il ne faut pas s'y exposer, c'est tout.
Et si ça vous arrive, la Fédération française de randonnée conseille de s'écarter de tout arbre isolé, de s'éloigner des crêtes et d'essayer de se réfugier le plus rapidement possible dans un abri en dur.
Une cyberattaque contre Intermarché. Le groupe l'a annoncé hier, mais les faits remontent à la semaine dernière. Célestin Bougère, vous êtes en direct avec nous. Ce sont près de 300 000 clients qui sont concernés, des clients qui font leurs courses en ligne et qui passent par le drive de l'enseigne.
Oui, exactement. Si vous faites partie des 287 victimes de cette cyberattaque, vous avez dû recevoir un mail d'Intermarché. Les pirates ont pu avoir accès à vos prénoms, vos noms, numéro de téléphone, adresse postale, date de naissance, votre numéro de carte de fidélité, ou encore certaines informations sur vos commandes en ligne. Le groupement Les Mousquetaires Intermarché l'assure, aucune donnée bancaire, aucun mot de passe ni aucune adresse électronique n'a fuité. Mais vigilance tout de même, si vous êtes concerné par cette attaque, ces informations aux mains des pirates peuvent être utilisées pour rendre plus crédibles des tentatives d'hameçonnage et d'escroquerie à l'avenir. Le groupement Les Mousquetaires Intermarché a porté plainte auprès du parquet de Paris. Des investigations complémentaires sont en cours pour savoir si d'autres personnes ont été touchées par cette cyberattaque.
Les précisions de Célestin Bougère en direct sur RMC. Une réunion qui s'annonce tendue ce matin à 10h entre les 27 États membres de l'Union européenne sur la crise migratoire en cours à Ceuta, enclave espagnole frontalière avec le Maroc, dans laquelle des dizaines de milliers de personnes migrantes ont tenté d'entrer illégalement ces derniers jours. Plusieurs pays exigent depuis l'exclusion de l'Espagne de l'espace Schengen.
Clara, les Français continuent de partir en vacances, mais ils sont beaucoup plus prudents côté porte-monnaie.
Ouais, ils ont été nombreux à partir le mois dernier, mais ils ont beaucoup moins dépensé que les années précédentes. Selon une étude de France Tourisme, environ 1500 euros en moyenne de dépenses par foyer. Et lorsqu'il faut se serrer la ceinture, Alexandre Thibault, ce sont les activités et les restaurants qui passent à la trappe.
En vacances une semaine en Bretagne, Adèle et ses amis, étudiants...
Ouais, on fait attention quand même à pas tout ce qu'on fait quand même.
...ont dû faire quelques concessions.
Quand on va acheter de la nourriture et tout, des fois, on fait attention à manger plus de pâtes, par exemple, parce que c'est moins cher. Ou pour les logements, de chercher les moins chers.
Car ils sont allés chez une amie, donc pas de logement à payer. Sur place, il y a aussi les activités. Damien, lui, part en famille.
Par exemple, s'il y a une activité qu'on veut absolument faire, mais qui n'est pas donnée, on va la faire, mais au détriment d'autres activités, peut-être.
Et quand il faut manger.
Des restos, on limite, on fait plus du pique-nique parce que c'est moins cher et puis c'est sympa surtout.
Des restaurants qui deviennent donc la variable d'ajustement. Christophe Souk, restaurateur et vice-président de l'UMI, l'Union des professionnels de la restauration des Alpes-Maritimes.
Je crains malheureusement que les gens choisissent plus maintenant par rapport au prix que par rapport à leur choix alimentaire. Mais moi, j'ai une baisse du ticket moyen d'€1,40 par couvert.
Des touristes qui sortent aussi moins en raison des températures très élevées.
On a vécu un mois de juillet qui était mauvais. Trop de chaleur, les gens n'avaient pas envie de manger. On a tous perdu plus de 30 à 40% de notre chiffre d'affaires sur ces jours-là.
Il s'attend à un mois d'août meilleur pour compenser les pertes de l'été.
Alexandre Thibault, en football, la saison commence tout juste et l'Olympique lyonnais joue en partie son avenir ce soir. Les Lyonnais se déplacent en République tchèque pour le match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Sparta Prague. L'enjeu sportif est important, Maxime Tillette, tout comme l'intérêt financier.
Oui, ce premier match officiel de la saison est déjà l'un des plus importants pour les Lyonnais. Le but est de retrouver la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2020, mais aussi de redresser les finances du club. Au bord du précipice depuis plusieurs mois, Lyon doit vendre encore plusieurs joueurs pour assainir ses comptes. En cas d'échec sportif, l'OL sera reversé dans une Ligue Europa bien moins lucrative. Donc, une qualification parmi le Gotha européen jugée nécessaire. Le simple fait de jouer les 8 matchs de la phase de Ligue rapporte 18 millions d'euros, sans parler des droits télé, de la billetterie ou des bonus de 2 millions accordés à chaque victoire. Pour y parvenir, le chemin est encore long. En cas de qualification face au Sparta Prague, il faut ensuite écarter les Turcs de Fenerbahçe ou les Autrichiens du Sturm Graz.
Et puis le Tour de France femme avec cette victoire hier de la Norvégienne Sigrid Hoogstedt. Elle s'empare du maillot jaune. Aujourd'hui, c'est un contre-la-montre qui attend les coureuses en Bourgogne. 21 km entre Gevrey-Chambertin et Dijon. Départ 14h30, les coureuses qui seront contrôlées au niveau de leur tenue et notamment de leur soutien-gorge. Un soutien-gorge potentiellement rembourré selon l'Union Cycliste Internationale. En augmentant la surface de la poitrine des coureuses, il pourrait permettre un gain aérodynamique.